Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 99e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR.
En vrai. Elle était pas préparée du tout.
Non, du tout, du tout. On n'a pas répété ça. Et donc une émission un petit peu exceptionnelle, comme vous pouvez le constater, parce qu'on se retrouve effectivement en vrai. Voilà. Wouh, on est en train d'amorcer justement la centième. On se fait un week-end spécial VR, spécial podcast. Donc c'est un plaisir de vous retrouver juste avant la centième.
En vrai, la première fois surtout.
Et c'est vrai que Majo est encore plus beau que sur la webcam, quoi. C'est complètement vrai. Incroyable. Donc nous avons Majo. Comment tu vas, Majo?
Eh ben ça va. Écoute. Ouais. Super week-end. La route a été longue, mais je regrette pas.
Bon bah tant mieux. Voilà. Et nous avons du coup aussi Lolo. Salut Lolo.
Ça va?
Ouais, oui. Ça va.
C'est drôle, on est à côté.
Ça fait pas comme si ça avait déjà 24 ou 48 heures.
Et tout, c'est incroyable. Ah,
attends, ouais. Je t'arrête ça tout de suite par contre. Donc, une émission qu'on va faire, on va rester classique en tout cas pour celle-ci. On va commencer du coup par les news. Et Majo, tu voulais nous parler. Est-ce que je vois, t'es complètement préparé des bon. Jeux qui ont été listés sur le store de PSVR 2.
Ouais, alors on en a eu des nouveaux. Alors il y a pas mal de jeux qui sont listés, annoncés du coup sur le store. Et y en a quelques-uns là qui ont fait leur apparition, notamment Hubris, qu'on ne connaissait pas officiellement et qui vient de popper donc sur le store. Et du coup qui fait son apparition officielle. Alors il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, on est juste sur une partie annoncée, mais du coup on a enfin officiellement le fait que ça va arriver sur le PSVR 2.
Alors Hubris, qu'on rappelle, qui est déjà sorti sur PC, qui s'est sorti je crois à
20
d'euros, ouais, un truc comme ça il me semble.
Et, oui, ça fait un petit moment.
Qui est un jeu épisodique d'aventure et qui est joli, mais pas fifou quoi.
Voilà,
mais
donc, on verra. Est-ce qu'il sera aussi joli sur PSVR 2 avec ce qu'on connaît en ce moment, ces petits développements différents? Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission.
Exactement.
Et on a plein de choses à dire. On a aussi, alors celui-ci, moi perso, en tout cas, je l'attendais pas trop. Mm-hmm. C'est Red Matter 2, qui vient lui aussi d'être annoncé du coup sur le PS Store. Pas de date de sortie encore une fois. Il est sorti donc sur Quest 2 et Quest
PC
Pro.
Et Pico.
Et on a surtout des bonnes nouvelles dessus. Alors là, c'est toi Lolo qui...
Apparemment, il y avait plein de changements et justement, le jeu a été vraiment remodifié, voilà. Et refait joli quoi.
Voilà, 120 FPS natif. Le studio précise qu'il n'y aura pas de reprojection. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle en soi, parce qu'on est vraiment sur du 120 natif. Le rendu FOVL pour utiliser un peu plus d'économie sur le système, donc ça, c'est une bonne nouvelle également. Les textures sont intégralement toutes remasterisées en 4K. Ça va. Et puis, ils ont changé aussi les éclairages, les ombres, des effets de halo de lumière.
Autour des objets, les effets de bloom.
Donc c'est une bonne nouvelle, quoi. On l'attend.
Un jeu déjà sur PC qui pour l'avoir testé
et qui est déjà très joli.
Est déjà très 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 joli. C'est un petit peu de la magie ce qu'ils ont quand même réussi à faire déjà sur une version autonome sur ce jeu-là. C'est un porte-étendard et c'est on n'est pas forcément d'accord là-dessus. En tout cas, c'est
Sur l'autonome, c'est un porte-étendard. Sur PSVR 2 et PC, je suis pas sûr.
On va voir ce que ça donne.
C'est un porte-étendard sur Quest Pro parce que c'est un des jeux qui profite de l'eye tracking justement sur la version Quest Pro. Eye tracking qui est plutôt bien géré visiblement ce jeu d'après les retours qu'on a.
Ce qui est annoncé, je suis plutôt confiant quoi. C'est un truc.
Le premier était déjà beau à l'époque pour un jeu PSVR. On se rappelle, c'était quand même.
Oui, le premier était.
Il y avait une diff assez importante d'ailleurs entre la version PSVR autonome, et la version Quest 2. Est-ce que la diff sera aussi importante du coup?
Je pense pas.
J'en sais rien, mais en tout cas, bon, ça reste un jeu quali et puis que on attendait.
Et puis qui est bon quoi.
Enfin, qu'on n'attendait pas, pardon, mais qu'on est content de voir et de recevoir donc sur le PSVR 2. Et ensuite le petit dernier. J'en avais parlé du coup quand j'avais été à PGW où j'avais posé la question donc à Wanadev qui ne savait pas à l'époque.
On peut pas en parler.
Et donc du coup non il ne savait pas. C'était pas on peut pas en parler, c'était on sait pas. Et du coup donc c'est propagation par Dice Hotel donc de Wanadev qui vient lui aussi d'être officialisé sur PSVR 2 donc On ne sait pas non plus quand, on ne sait pas non plus à quel tarif.
Propagation, c'est un truc qui était prévu sur PC. C'est pas Paradise Hotel, non?
Alors, c'est, ouais. Si, c'est ça.
Et c'était une démo gratuite
alors,
qui était
non,
sur.
C'était Propagation, je ne sais plus quoi, mais en fait, Propagation, c'est une déclinaison de beaucoup de, ouais. d'expériences différentes, et notamment dans les salles d'arcade, enfin dans les salles VR, pardon, où tu peux aller jouer avec n'importe qui, où tu as toute une déclinaison de plusieurs expériences Propagation, en fait. Et donc, il y en avait effectivement une.
Ça reste horrifique, quoi.
Dans le
métro.
Une gare de métro, ouais. Voilà, tout à fait. Qui était, elle, gratuite et que Steph, je crois d'ailleurs.
Il avait fait une preview sur le site, ouais.
Exactement. Voilà, donc mais ça arrive aussi, donc on est content. Hein, voilà. Encore un petit jeu d'horreur qui a l'air, ma foi, fort intéressant. Petite histoire rapide, ça se passe dans un hôtel, il y a une personne à sauver vraisemblablement. Plusieurs protagonistes, donc ça a l'air plutôt joli, c'est sombre.
Plutôt bien foutu.
La démo était déjà, enfin la version gratos sur Steam était déjà quand même très, ouais. très quali à ce niveau-là.
C'est vrai. C'est vrai. Et puis après, on a tous les autres, hein, qu'on connaissait déjà, donc Humanity, Nock, Pixel Rift 1978, c'est vrai qu'on en a pas parlé non plus, donc nouvelle itération de Pixel Rift en partenariat avec Atari.
Ouais, qui va justement, qui va vraiment revenir dans les bases du jeu vidéo, quoi. J'ai un peu peur, c'est pas une époque pour laquelle je suis vraiment attaché.
Ah, t'étais pas né.
Non, mais clairement.
Après, faut voir comment c'est introduit, quoi. Apparemment, l'environnement est vraiment bien fait.
Ça sera bien fait.
C'est vrai que ça va être pour jouer à des jeux des années.
70,
les 70, deux premiers Pixel Rift, de toute façon, moi j'avais vraiment accroché, surtout le deuxième, quoi, qui te replongeait dans l'époque du début, la fin des 16 bits, le début des 32 bits, et c'était. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris à ce que c'était le jeu vidéo de l'époque, quoi.
C'est un peu notre génération aussi, c'est pour ça qu'on est un peu plus attaché à cette.
Mais j'avais adoré.
À cette période-là. Je l'avais trouvé plutôt pas mal aussi, je l'ai essayé sur Pico, d'ailleurs. Je l'avais trouvé plutôt propre. Donc voilà, bon après, Talking Dog. Synapse, Teen Hearts aussi, dont on avait parlé il y a fort longtemps.
Le Lemmings avec les petites, les petits robots mécaniques là.
Et qui va sortir ou qui est sorti en plat d'ailleurs?
En plat, ça va pas tarder. Alors, si c'est pas déjà fait. Par contre, le Teen Hearts s'est affiché dans les moteurs de recherche du PlayStation Store en VR, alors que le jeu avait bien été prévu pour sortir d'abord en plat et après en VR. Donc on sait que.
Non, mais la version plate ne va pas tarder. Hein,
voilà. La version plate, elle est là.
Soit elle est sortie.
Et la version VR, à mon avis, elle va suivre rapide parce qu'elle est déjà sur le PS Store. Elle est déjà dans la catégorie PSVR 2.
Donc voilà.
Quand même pas mal de choses.
Les derniers. Ouais, et puis des jeux, ma foi, plutôt intéressants. Voilà.
Des trucs qu'on savait déjà, on était déjà un petit peu au courant que ça allait sortir. Alors, Propagation, ça fait un petit moment qu'on en parle aussi. Teen Hearts aussi, on avait fait un article, fait un article là-dessus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte.
Et au sujet de Propagation, nous, ça fait un petit moment qu'on est en train de discuter avec WanaDev. On avait commencé à les contacter en juin de l'année passée. Et en fait, à ce moment-là, le jeu avait déjà été annoncé sur certaines plateformes. Je crois que Wizard Parole, IGN en avait parlé. Et du coup, à cette époque-là, ils avaient dit, on voudrait le faire, mais pour l'instant, ils avaient toujours pas les dev kits, ils avaient retardé, tout en nous disant, on aimerait bien, mais pour l'instant, on peut pas vous le dire. Donc là, c'est vraiment, c'est bon. Là, c'est clair, c'est officiel. Le studio a pris la parole, c'est bon, il arrive.
Donc ça avance, et ce qui m'a surtout permis, en faisant cette recherche, du coup, de quel jeu avait été annoncé, de m'apercevoir qu'il y avait quand même 84 jeux. Listé sur le store pour le PSVR 2, donc en tout, entre ceux qui sont déjà sortis et ceux qui vont arriver, ce qui, ma foi, est quand même relativement conséquent. Voilà.
Oui, alors il y a à boire et à manger,
bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr.
Il y a du très très bon, il y a de la merde, on peut le dire.
On peut le dire. Il y a de la merde.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut justement, du coup, enchaîner en parlant de merde et puis peut-être parler de Across the Valley que tu as eu le plaisir, Laurent, de tester.
Un grand moment de bonheur.
Il a sorti sa mèche.
Voilà, c'est ça.
Et là, j'ai lancé le jeu et c'est une catastrophe. J'ai toujours rêvé d'être. Alors déjà, moi je vis à la campagne, donc déjà, tu lances le truc.
Mais la campagne, c'est joli normalement. Hein.
Si vous rêvez de devenir un jour un fermier. En VR, acheter
une ferme.
Voilà.
Acheter une ferme.
C'est ça.
Toujours mieux. Donc en gros un jeu de simulation de ferme, donc les trucs habituels, on bêche la terre, on plante des graines, on arrose, on attend que ça pousse, quand ça a poussé on fait les récoltes, quand on a nos récoltes on vend notre blé, et puis on gagne un peu d'argent, avec cet argent on peut s'acheter des animaux, des poules, des cochons, des machins, et puis après on a des moutons, et puis les moutons vont faire de la laine, on va tondre la laine, on va vendre la laine, et avec l'argent on va pouvoir racheter des trucs, et ça tourne en boucle comme ça. Bien sûr le but du jeu c'est que la ferme grandisse et puis d'avoir une méga super ferme. Franchement le jeu il est pas très beau, pour dire plutôt moche.
Oui.
Il est aliasé. Il a des options, c'est impressionnant, parce qu'on a un mode assis et un mode debout, mais quand on appuie sur le bouton mode assis ou mode debout, il ne se passe absolument rien, il n'y a aucun changement. Et du coup, on se dit, s'il y a un mode assis, on va essayer assis, sauf qu'on ne peut pas faire de demi-tour, parce qu'on ne peut pas bouger son personnage avec les sticks analogiques, donc si on veut faire demi-tour assis, il faut se tourner comme ça.
Ah oui, d'accord, c'est pratique appuyer. Ça.
Voilà. Non, c'est de la VR, Lolo, attends, il y a un moment, c'est du bon chez gaming, quoi. C'est ce que tout le monde demande.
Voilà. Ouais, mais dans ce cas-là, le mode assis.
Je comprends pas.
Et puis alors c'est pareil, si vous avez vu la vidéo, je me suis éclaté à mettre... Alors au début, il disait, c'est un petit peu comme les Tamagotchi, il faut s'occuper de ces petits poussins, de ces petits animaux, donc il faut les caresser, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Ils ont toujours un truc qui va pas, hein. Quand ils ont plus de grains, ils ont plus d'eau. Et du coup, au début, on les caresse. Donc quand on les caresse, ils font des petits cœurs. Puis après, on s'aperçoit quand on leur met des grosses patates, parce que je sortais en plus de Creed, donc j'ai commencé à leur mettre des coups de poing, et ils sont encore plus contents. Ils font plus de cœurs quand on leur met des coups de poing que quand on les caresse.
C'est spécial, hein.
Ah, ils aiment le contact.
D'accord, des animaux sadomaso, voilà. C'est pas mal, c'est original.
Alors, j'ai pas essayé dans Creed de caresser un joueur pour voir si ça marche.
Ça pourrait être intéressant.
Pour revenir sur ça, c'était. On en avait parlé aussi, mais je pense que c'était pour surfer sur le succès de Stardew Valley.
Oui.
Qui était pareil, c'est exactement le même esprit. C'était un jeu censé être ultra posé.
Animal Crossing, ce genre de jeu justement un petit peu chill.
Animal Crossing, t'as pas cet aspect économique quand même. Parce que là, il y a quand même, au bout d'un moment, il faut aller revendre, faire du profit, voilà. Tu vois ce que je veux dire.
Mais si tu t'occupes pas de tes animaux, ils tombent malades.
T'as un système de dette aussi et de.
Oh, certainement.
Pour ton exploitation.
Je te rappelle au gouvernement.
Alors, si tu veux, je suis pas allé jusque-là. Parce qu'il y a un moment, j'ai dit non, c'est bon, stop. Mais bon, c'est clair que c'est déjà Redune, c'est pas ce genre de jeu qui vont vendre du PSVR 2, c'est même le genre de jeu qui vont faire perdre des joueurs PSVR 2. C'est pas beau, c'est mal fichu. À part quelqu'un qui soit passionné de ce que je disais dans la vidéo, quelqu'un qui n'a jamais vu une vache de sa vie ou qui n'a jamais vu la ferme et qui rêve de vivre au salon de l'agriculture, j'en sais rien. Mais ça va viser même les enfants, vu qu'on sait que le PSVR 2 il est déconseillé au moins de 12 ans. Donc à 12-13 ans, on va les mettre là-dessus, mais non, à la limite, une petite de 6-7 ans, ça pourrait peut-être lui plaire.
Justement, ouais. Ça c'est le cas un petit peu quand même de pas mal de productions et de jeux qui viennent, notamment de l'autonome, en tout cas qui sont des productions autonomes, et qui arrivent ensuite sur le PSVR 2. Je me demande toujours, moi, à qui ça s'adresse, quoi. Parce que tu peux te dire il y a des nouveaux joueurs justement qui découvrent la réalité virtuelle et qui peuvent être quand même un petit peu intéressés par la proposition, ça reste quand même des jeux très 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 enfantins.
Ouais.
Ultra enfantin, et c'est pas uniquement dû au style graphique qui est un petit peu kawaii et qui
est du cel shading.
À qui ça s'adresse, quoi? À qui ça s'adresse? C'est pas qu'on veut forcément des jeux violents, des jeux serious business,
un peu plus adulte, un peu plus mature.
Mais disons que ce genre de production là, je ne sais toujours pas moi à qui ça s'adresse en fait.
Il y a ça, et puis l'autre chose, c'est on est encore dans le jeu où tu où c'est un jeu de travaux forcés en fait, comme il y a eu pas mal de un jeu simulateur, encore tu peux te défouler, quoi que là aussi tu peux taper sur les animaux, mais disons que par exemple
il y a un problème
côté salaire, quand même.
Non, mais il y avait des jeux par exemple, je me rappelle c'était The Duo, je sais plus comment il s'appelait, où il fallait faire des hamburgers, et puis au bout de 10 minutes que t'as joué, tu prends ton pain, tu mets tes machins, et puis t'es de plus en plus stressé parce qu'il faut faire ça de plus en plus vite, et puis au final tu te dis mais en fait j'ai passé ma soirée à faire un boulot de merde,
parce que c'est à travailler à la chaîne
en fait, mais ouais, c'est ces fameux gimmicks en fait de motion gaming où
je dois tout faire,
voilà, et... c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du motion gaming, en fait on peut considérer que c'est un jeu qui est adaptable, enfin c'est quelque chose qui peut faire un jeu VR, quoi, finalement, parce que t'as pas d'histoire, t'as pas de scénario. Donc c'est vraiment un enchaînement et une succession de tâches à effectuer en fait, et qui un peu à la manière d'un jeu de survie finalement, te force constamment à faire des choses, faire des choses, et en fait entretiennent ton esprit à faire ce genre de trucs, et du coup t'oblige en fait à continuer, sauf que La vraie question qu'il faut se poser quand tu fais ce genre de jeu, c'est, ok, t'as le casque sur la tête, bon, tu commences, machin, etc. Très bien, tu fais tes trucs, t'es forcé, tu t'avances. Une fois que t'as posé ton casque, est-ce que t'as ensuite envie de le remettre pour refaire ce genre d'expérience et te dire, putain, je vais encore aller saouler, tout en sachant que c'est pas encore une fois, c'est un jeu qui est censé être un peu posé, comme je parlais de Stardew Valley. C'est encore une fois un jeu qui est censé avoir, même dans le trailer, une ambiance posée, calme, mignon, tu vois, t'es à la ferme, t'as des animaux.
Un peu contemplatif, voilà. Enfin, si c'était plus beau, quoi.
Ouais, contemplatif, ouais. Enfin, ouais, bah, un truc, en tout cas, calme et posé. Et du coup, est-ce que vraiment t'as envie de t'infliger ça, quoi, finalement, si on peut, enfin, moi, j'emploie le terme infliger parce que c'est un peu le cas, finalement. Est-ce que t'as vraiment envie de.
Ouais. Et en plus, c'est des jeux à routine. C'est des jeux à routine.
Ah oui,
c'est
vraiment
des jeux à routine. Tu fais tout le temps la même chose.
C'est à la limite, tu vas démarrer le jeu, tu as toujours ta curiosité qui va démarrer, où tu vas dire, tiens, il faut bêcher. Donc, tu as le choix entre la pelle ou la bêche. Tu vas dire, tiens, je vais commencer à creuser, voir comment ça fonctionne. Donc, ça t'amuse une fois. Allez, tu vas bêcher une fois, tu vas dire, ouais, c'est bon, j'ai bêché, j'ai vu comment ça faisait, comment j'arrose. Quand tu l'as fait une fois, et quand tu vois qu'en fait, il va falloir faire ça tout le long, la deuxième fois, déjà, c'est beaucoup moins drôle.
Est-ce que tu as la possibilité d'agrandir ta ferme?
Oui.
Ou est-ce que tu peux changer d'exploitation?
Non,
aller
tu
dans
changes
d'autres environnements.
Non. C'est toujours la même ferme. Par contre, ton terrain, au début, est vide. Et donc, c'est des petites zones de terrain que tu vas cultiver, et puis des parcelles, et puis tu vas en faire de plus en plus, en fait.
D'accord.
Dans une t'auras du blé, dans une t'auras des carottes, dans une autre t'auras des plantes de tomates, t'auras tout un tas de trucs, mais c'est toujours la même mécanique, en fait.
Ouais, donc c'est-à-dire que t'as même pas en plus cet aspect découverte, en fait, d'un nouvel environnement, parce que je parlais de jeu de survie,
parce que forcément
il faut le caler.
Non, Mathieu, non.
Je vais parler de Sanguine de Smoke.
Allez, celui-là c'est fait.
On va boire un coup.
Ce que je veux dire, c'est que t'as au moins, même si tu as, comme tu disais, un aspect redondant, si tu veux, sur le fait de toujours, voilà, devoir faire un feu de camp, devoir établir ton camp, etc., tu as quand même cet aspect découvert du nouvel environnement, découvert de la nouvelle faune, de la nouvelle flore.
Et t'avances, t'as l'impression d'avancer.
Exactement. Et c'est ça, en fait, qui te tient, finalement, c'est d'avoir envie d'aller voir ce qui se passe après, et que là, en fait, c'est même pas le cas. C'est-à-dire que tu es vraiment là pour effectuer tes tâches.
Journée,
au moment où on te le dit, et pour être productif, pour pouvoir continuer à grandir.
Tu as quand même, etc. Tu as un cycle jour-nuit, donc tu vas très bien pouvoir te lever en pleine nuit pour arroser, si c'est mal, s'il a fait chaud, tu vas arroser des trucs. Mais en fait, en gros, le matin, tu vas dans ton lit, dans ta maison, tu te lèves, là, tu as un petit calendrier sur le mur en disant, il faut que tu fasses ça aujourd'hui. Tu pars, tu vas dire, allez, il faut que j'aille chercher mon blé. Donc c'est écrit, tu vas chercher ton blé. Après, les poules, il faut donner à bouffer aux poules. Donc tu vas donner. Et tous les jours, c'est comme ça. Donc après, plus tu as d'éléments, après c'est les plantes tomates, après c'est aller t'occuper du mouton qui a pu à boire. Mais tu fais que ça, en fait.
Est-ce que tu peux tondre les moutons?
Oui.
Ah, formidable.
Tu peux
tondre. Meilleur jeu de la
Voilà. Gauthier, c'est bon.
Tu peux tondre les moutons, tu peux même aussi avoir des cochons qui vont te servir à aller chercher des truffes. Et toujours les truffes, tu peux les revendre, et avec l'argent, tu peux racheter de nouveaux animaux. Mais bon.
Alors, est-ce que t'es allé jusqu'au bout du jeu? Est-ce que t'as vu le endgame?
Ah, pas du tout.
Est-ce que tu penses qu'il y a une finalité, en fait, à tout ça?
Non. Alors, j'y ai passé à peu près 2-3 heures. Déjà, au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus.
Ouais.
Déjà, au bout de 20 minutes, je commençais à taper les poules.
D'accord. Mais elle t'aimait encore plus, c'est le problème des animaux.
Mais je suis allé jusqu'à 3 heures et. Non.
Ouais.
Non, je vois pas à qui ça s'adresse. Et...
C'est pas parce que tu peux.
Et je suis sûr qu'il y en a certains qui vont adorer, peut-être.
Il y a des excellents jeux où tu pouvais taper les poules. Je me rappelle de Zelda. Link
ah oui,
Past,
ouais, mais elle te défonçait derrière aussi. J'adorais.
Elles étaient inoffensives, mais elles se barraient, tu vois. Mais ouais. C'était drôle.
Dans Pavlov aussi, quand tu tires sur une poule,
ouais,
je m'attendais à avoir du sang. Et ben non, tu tires sur une poule dans Pavlov, la poule, elle fait. Elle tombe comme ça.
Ah oui, elle est ramenée. Ah, Pavlov, c'est un vieux.
En fait, dans les jeux, je maltraite les poules.
Ouais, je pense que t'as un petit souci là-dessus.
Peut-être que
agressé
je fasse une thérapie
quand t'étais petit, ouais, je pense certainement.
Il y a des restes. Et il est buggé un peu ou ça
ah oui,
reste quand
bien
même
sûr.
Relativement
ah
stable.
Non. Stable, oui, mais en fait, il n'y a même pas besoin qu'il soit buggé parce que de toute façon, tu vas d'un point A à un point B en téléportation, tu ne peux pas faire marche arrière, tu n'as pas de stick analogique pour regarder sur les côtés, donc c'est uniquement la tête. Je te dis, si tu veux pointer la maison qui est à droite, bah, t'es obligé, en position assise, de te tourner comme ça et d'appuyer sur le bouton, il n'y a que ça en fait. Donc, bugué.
TP, déplacement libre.
Il n'y a pas de bug, il suffit
à lui-même. Téléportation.
Ah, que de la TP en plus.
Que de la TP.
Ah oui, en plus. Ah oui, donc en fait, c'est un jeu. Le paradoxe.
C'est plus compliqué.
C'est un jeu qui se vend full motion gaming, mais full TP.
C'est ça. C'est ça.
Donc voilà, cherche le paradoxe.
Non, mais non.
Bon.
Encore, oui, il y aurait eu un minimum de travail sur les déplacements et tout ça. Mais là, non, là, c'est pas possible.
Bon, du coup, on vous le conseille.
On vous le conseille, voilà, c'est Gauthier.
Un hit.
Combien ça coûte?
J'en sais rien.
Trop cher. Ouais. C'est pas gratuit, quoi. Voilà. Donc, faites-en ce que vous voulez. Alors, à propos, justement, de, je vais rebondir, justement, sur le, ce que tu disais tout à l'heure, Majo. C'est-à-dire, le motion gaming, justement, et apprendre aux joueurs, en tout cas, donner le goût aux joueurs d'essayer de faire des choses par eux-mêmes. De mimer justement des vraies actions.
Se lever pour mettre un disque dans la console déjà.
Par exemple, mais ça c'est de la merde, ça, le physique. On le sait tous. Non, c'est vraiment justement obliger les gens à reproduire les gestes et justement le fait que certains joueurs soient très 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 attachés à ça, notamment les succès que sont par exemple Pavlov. Il y a des gens justement qui aiment beaucoup devoir prendre leur chargeur, virer l'ancien chargeur, viser la culasse, tac, recharger. Amorcer le chien et puis etc.
Ce que je comprends.
Et justement, est-ce qu'on pourrait pas parler justement de ce qui a été annoncé pour Firewall Ultra, alors, notamment son mode ultra.
Alors donc Firewall Ultra, il y a certains influenceurs, sites qui ont eu la possibilité de mettre la main dessus, donc de tester, on va dire le jeu. Alors je vais mettre les pieds dans le plat direct. Hein. Bon, je vais pas du tout parler de ce que tu viens de me dire.
Parfait, c'est génial. C'est même normal, même c'est en vrai, tu me foires mes transitions, c'est nickel.
Que va-t-il dire ?
On change pas l'équipe qui gagne. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, de ce qu'on a pu voir et lire, en fait, bah, c'est ce qui avait plus ou moins été annoncé. En fait, c'est une redite de Firewall Zero Hour. Mmh. Du coup, au niveau des maps. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que les maps ont toutes été retravaillées avec énormément plus de détails, des textures améliorées,
heureusement.
Et surtout, des éclairages. Surtout, voilà. Et là, c'est, je pense que c'est la phase la plus importante du jeu. C'est, en tout cas, c'est celle sur laquelle ils ont énormément communiqué. Merci. Au début, c'est un jeu qui est développé sur Unreal Engine 5. Donc, c'est le premier jeu VR, du moins, à être développé sous Unreal Engine 5. Et ils ont fait énormément d'efforts sur l'éclairage.
C'est plus que ça, parce que Julien Chaise a même dit que c'est la première fois qu'il testait un jeu Unreal Engine 5.
Non, parce qu'il y en a d'autres.
Peut-être qu'il les a pas essayé, simplement.
Non, oui, il y avait ça, mais ne serait-ce que Fortnite, qui a été amélioré avec.
Oui.
Donc, non, c'est vraiment le premier jeu VR, par contre, utiliser l'Unreal Engine 5. Et donc, du coup, ils ont énormément travaillé la lumière, ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Et en fait, la lumière va faire partie intégrante, du coup, du gameplay.
C'est ça.
Et ça, c'est quand même une feature qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou que moi, du moins, j'ai jamais connue ou eu utilisée.
Splinter Cell.
En VR, je parle.
Ah oui, voilà.
Enfin, sans mode, du coup.
Sans mode.
Et du coup, c'est hyper important parce que... déjà, les zones seront beaucoup plus sombres, donc forcément, ça va coller avec la dalle OLED HDR. C'est ce qui va grandement aider l'ambiance, en fait. Mmh. C'est ce qui va favoriser l'ambiance. Du coup, les torches auront une importance deux fois plus importante, parce que va falloir mieux se repérer.
On va se faire repérer.
Et surtout, tu vas pouvoir te faire repérer, en fait, par les ennemis. Sauf que si tu te fais repérer, en fait, tu vas avoir la possibilité de contrer, puisque tu vas pouvoir aveugler tes ennemis avec ta torche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce sera directement
dans les
yeux, ton ennemi va être aveuglé. Alors quelle sera la distance, on ne sait pas trop, ça sera à l'appréciation une fois qu'on jouera. Mais tu as déjà cette particularité. Donc ils ont poussé le vice où quand tu seras avec tes deux VRSense, mais tu pourras mettre la main en fait devant ta torche, simuler que tu mets la main devant ta torche de manière à la cacher en fait,
ça va être dingue, ça.
Pour couper la lumière. Et puis donc quand je disais que tu peux aveugler tes ennemis, si tu ne veux pas être aveuglé, donc ça va faire une espèce de voile blanc, donc un peu à la manière d'une flashbang. Et en fait, si tu ne veux pas être aveuglé, tu pourras donc grâce
à l'eye
tracking.
Tu mets tes mains dans les yeux ?
Non, fermer les yeux.
Grâce
à l'eye tracking.
Okay.
Donc si tu fermes les yeux, en fait, tu n'auras pas cet aspect aveuglement. Et du coup, donc ça fait des petites notions de gameplay supplémentaires. Donc qui sont ma foi plutôt cool, du moins avec cette feature.
Il y a un truc en plus qui peut être apporté uniquement en réalité virtuelle, quoi. Donc on est sûr que ça peut pas être fait en plat.
Et puis le fait que ce soit des lumières en plus diffuses, par exemple si t'es dans un couloir et que t'as une fenêtre dans le dos, ton ombre peut trahir ta position du mec qui arrive en face donc il va falloir faire attention où tu te places en fonction des éclairages.
D'accord. Ouais, franchement, ça va être assez dingue, je pense, ce qu'ils ont rajouté. Et du coup,
tu pourras pas te planquer derrière une caisse s'il y a une lumière qui peut te trahir.
Et aussi, jouer aussi un petit peu avec les zones d'ombre, j'imagine, de la map, qui sont un petit peu moins éclairées, où tu pourrais essayer de te planquer. Donc, il y a toujours des campeurs de toute façon dans ce genre de jeu-là.
Tu parles de campeurs, le sniper a été ajouté, vraisemblablement. Nouvelle arme. Alors, pareil, les maps étaient pas spécialement grandes. Maintenant, je me souviens, il y avait celle où il y avait le tanker, là où t'avais le bateau. Ouais. Un espèce d'énorme bateau où tu pouvais visiter.
Qui était en deux petites zones et que tu pouvais vraiment.
Voilà, et là, il y avait quand même des zones assez ouvertes. Ouais. Donc je pense que d'un point à l'autre de la map, il y a moyen quand même de pouvoir utiliser ce snipe.
Moi, après, je suis pas trop choqué justement par le fait que les mêmes maps soient réutilisées sur l'Ultra par rapport au premier, parce que ça c'est déjà toujours fait. C'est-à-dire que les counters, t'as des maps mythiques, si elles sont pas dans les jeux, genre Dust 2, et trucs comme ça, ça va être un scandale. Et je pense que justement les maps sont suffisamment bien foutues pour pouvoir être redécouvertes comme ça dans ces conditions-là avec beaucoup de plaisir, quoi. Et j'imagine que de toute façon il y en aura des nouvelles aussi, très certainement.
Oui.
Certainement aussi que le jeu, s'il fonctionne bien, va y avoir des DLC qui vont être rajoutés, soit payants, soit gratos, avec du contenu supplémentaire. C'est la meilleure façon de faire vivre ce type de jeu multijoueur. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus, et franchement je trouve pas que ce soit une mauvaise nouvelle, justement, que ce soit les mêmes maps qui soient un petit peu réarrangées.
Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, moi je suis d'accord, parce que de toute façon c'est complètement stupide de se séparer en fait d'une base
bien,
de données qui fonctionnait avec des maps qui étaient relativement qualitatives. Par contre, j'espère qu'il y en aura des nouvelles.
Moi aussi.
Alors il y en a eu quand même tout un tas, comparé à la version d'origine
sur l'original,
Zero Hour,
déjà.
Alors je me rappelle pas combien, mais il y en a bien eu 5 ou 6 de plus, si c'est pas plus, donc je veux pas dire de bêtises, mais j'espère qu'avec cette version de Ultra on aura aussi la possibilité d'avoir des nouvelles maps, des maps qu'on ne connaît pas, même si bon, je pense qu'ils ont changé pas mal d'objets ou de choses sur la map qui vont obliger les gens à réapprendre à jouer, en fait, parce que c'est pareil, une fois que tu connais les maps par cœur, bon, tu sais où il faut te planquer, tu sais comment amorcer tel endroit.
Il n'y avait pas des masses, de souvenirs, il n'y avait pas des masses, à part peut-être dans l'hôtel. Des masses de spots à campeur.
À campeur,
en fait.
Ouais, c'est vrai, dans l'hôtel, t'avais la chambre où t'avais les deux portes.
Ouais, tu pouvais un petit peu faire
là,
chier.
Là, c'était
ton
monde. Dur, j'avoue.
Mais sinon, les maps étaient suffisamment bien foutues, justement, pour pas qu'il y ait d'abus.
C'est vrai. En parlant de ça, du coup, ils ont aussi changé le matchmaking, mais bon, ça en avait déjà parlé. Donc, sur 3 parties maintenant, plutôt qu'une. Qu'est-ce qu'il y a? Serveur dédié. Plus de peer-to-peer tel que c'était à l'époque. Alors,
c'est bien. Ouais.
Oui et non.
Faut que le jeu ait du succès. Quoi.
Voilà, moi j'ai toujours peur de Solaris, du coup.
L'effet
Solaris.
Ça peut se couper.
Et tu parlais justement de Pavlov qui vient lui faire concurrence. On en avait aussi parlé, qui est un jeu qui fonctionne très bien par cet aspect justement motion gaming. Et donc tu parlais du mode ultra.
Ultra.
Donc il y a un mode vraisemblablement qui en fait possède du motion gaming pour le rechargement, qui n'aura plus d'assistance à la visée.
Ouais.
Et il y avait un autre point que j'ai oublié. Voilà. Donc, je suis désolé. Ma tête me fait défaut. Donc du coup, à juste titre, effectivement, tu parlais de Pavlov et de cet aspect rechargement physique. Et en fait, c'est formidable parce que ça te met un coup de pression supplémentaire dans la situation. Et moi, je me suis retrouvé, je me rappelle, et je l'ai capturé d'ailleurs. Si je peux la trouver, je te l'enverrai. Je me suis retrouvé en fait en face d'un mec, en face à face, et en fait on était tous les deux comme des cons.
T'as
en fait, et j'arrivais pas à recharger et tout, et puis en fait au lieu de prendre le chargeur, je me suis retrouvé avec le couteau, et puis là je l'ai regardé, et puis en fait j'étais le coutelet. Parce que il n'arrivait pas à recharger non plus, si tu veux. Mais ce genre de situation, c'est hyper drôle parce que t'es content du coup, parce que tu te dis non, je vais mourir, il faut que je me dépêche et tout, et en fait tu te retrouves avec ça, tu te dis non, je vais perdre, et là tu vois qu'il réagit pas plus, donc du coup t'y vas, et puis du coup t'es quoi.
Et ouais, ça peut apporter des bonnes situations, mais globalement, ça reste quand même, je trouve, assez contraignant, et ça casse un petit peu la dynamique de gameplay, mais
c'est
mon avis.
C'est différent. Là, encore une fois, vraisemblablement, qui peut le plus, peut le moins, du coup, donc il y a les deux versions qui vont être proposées, donc il y a la version standard, classique, telle qu'on la connaît, et cette version ultra, ce mode ultra, pardon, parce que c'est le même jeu. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas, maintenant. Pourquoi pas, c'est très bien, pardon, c'est pas ce que je veux dire, c'est très bien. Maintenant, j'espère vraiment que la concurrence avec Pavlov et surtout l'histoire de Solaris, pardon, ne se reproduira pas, parce que si en plus tu éclates avec des modes de jeu, parce que c'est ça aussi, il y avait qu'un seul mode de jeu donc dans Firewall, ce qui fait que tu avais toujours du monde sur les serveurs, mais parce que tu n'avais qu'un seul mode de jeu, donc forcément ça, on va dire, limite et regroupe bien les gens qui y jouent. Et j'espère que la communauté Firewall Zero Hour va rebasculer du coup sur Ultra pour en profiter et alimenter en joueur ce jeu, quoi. Voilà. Donc je l'attends avec impatience. L'aide à la visée, je l'ai dit, non, oui, et donc, et d'ailleurs, en parlant d'aide à la visée, c'est vrai, je suis assez sceptique aussi sur ces jetés de grenades. Et d'ailleurs, First Contact en a parlé, ils sont revenus là-dessus. Alors, le jeté de grenade, du coup, ne se fait pas en motion gaming. Je sais pas si vous vous rappelez.
T'as une espèce de petit halo, justement, qui, voilà. qui te montre la direction de la grenade.
C'est le même délire, finalement, que dans Zero Hour.
Ils avaient fait ça
avec l'IM.
L'IM contrôleur,
ouais. Voilà, tu pointais, du coup, et tu dirigeais, on va dire, où est-ce que tu voulais jeter ta grenade, et après, tu gérais la distance avec la hauteur. Là, vraisemblablement, c'est plus ou moins pareil, sauf qu'en fait, l'endroit où tu vas la jeter sera géré par l'eye tracking. Et j'avoue que je trouve ça quand même assez bizarre. Donc, bah, comme d'habitude, il faudra voir une fois qu'on y jouera, mais j'avoue que c'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé. Et surtout...
Si c'est bien équilibré, si c'est bien configuré, ça peut être une bonne idée quand même, hein, je pense.
Bah oui. Alors disons que
le juste sur les points hauts, par exemple, si t'as une rambarde et que tu veux essayer de balancer ça en cloche,
ouais,
sur la rambarde, est-ce que c'est juste le fait de viser,
bah, faudra lever ta tête, mais
va tirer droit, je suis pas trop
contre. Mais est-ce que c'est, enfin, parce qu'il y a cet aspect naturel, c'est-à-dire que oui, effectivement, ok, c'est pas un jeu dans Zero Hour, c'était pas un jeté de grenade, on va dire, comme ça à la main. Par contre, tu as quand même l'aspect naturel où quand un lance-grenade en arme physique, si tu veux, bah, tu le pointes en l'air, si tu veux, tu vas lancer en cloche. Comme tu dis, là, si tu dois en fait regarder en l'air comme ça, de manière à faire une cloche avec tes yeux, c'est... je pense pas que ce soit le truc le plus naturel, qui existe. Ouais. Donc après, à voir, encore une fois, on verra sur le tas, une fois qu'on aura le jeu, on en parlera plus en détail. Mais voilà, ça fait partie des trucs qui...
Je sais plus dans quel jeu c'était, un jeu multi où tu avais les grenades qui se téléportaient. Ça, c'était bien, ça. Tu visais, justement, et ça téléportait ta grenade juste là où est-ce que tu voulais que ça pop. Et c'était... Voilà, c'était un truc vraiment futuriste.
C'est chic, ça, non ?
En même temps, dans Pavlov, les grenades, il y en a combien qui se sont fait péter les dents avec ça ?
Oh, bah, alors, et bien, justement...
Mais j'arrive toujours pas à balancer une grenade ou un objet en verre.
Donc, je disais, First Contact sont revenus dessus, vraisemblablement, et en fait, ils auraient répondu que... ils ont répondu que c'était pour... éviter en fait que les gens n'arrivent pas à jeter les objets en motion gaming. C'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement
fou, hein,
difficile.
Des lancers de couteaux, les trucs comme ça, lancers de grenade.
Et du coup, pour pallier à ça, en fait, ils ont choisi cette option-là. Donc bon, à voir. Moi, j'ai mis quelques réserves sur ça et pour avoir joué à Pavlov aussi, il va me manquer un IM. Hein.
Ah bah ça, clairement. Le AM Controller, de toute façon, on va tous le regretter en mettant Firewall Ultra, c'est sûr et certain. Et même si on trouve une prothèse de jambe, je sais même plus qui.
Protube.
Pour mettre tes contrôleurs, et bah même avec ça, le confort est pas le même. Hein. Et c'était tellement naturel et tellement bien pensé, le AM Controller, que c'est vraiment un truc, je pense, qui va sincèrement manquer. Vraiment. Et qui risque, en plus, dans un jeu compétitif comme ça, de... Tous ceux qui ont joué à Firewall le premier avec ce même contrôleur vont vraiment avoir l'impression d'avoir une patte en moins, quoi, je pense.
Ouais, c'est vrai que malgré l'IM Drift, parce que ça aussi on l'avait connu,
il y a
des périodes où t'es droit et puis en fait
tu le gigotes,
qui part tout seul. Ouais. C'est vrai que c'était quand même casse-pied, mais il y avait quand même cette notion de d'avoir quelque chose de fixe en fait dans la main qui était toujours dans le même axe.
Les sensations,
Farpoint, oui, c'était excellent.
Les sensations étaient ouf, quoi.
Exactement,
vraiment. C'est que, oui, moi j'avais fait le test de, comment ça s'appelait, Sniper Elite, VR, avec le même contrôleur. Je me suis jamais senti autant comme un sniper qu'avec ce truc-là.
Mais c'est surtout que c'était en plus une alternative énorme au problème des PS Move. Parce qu'il y a aussi After the Fall qui s'en est servi. Moi, j'ai toujours joué After the Fall comme ça. Donc maintenant, c'est vrai que je me retrouve à rejouer donc avec le motion gaming, les rechargements et tout, ce que je ne faisais jamais, puisque moi, c'était... Tu colles poitrine et tu te remets pour recharger.
Tu peux encore, justement, dans les options, changer After the Fall et puis faire le rechargement. D'ailleurs, sur PC, c'est ce que
je fais. Ouais, mais ça reste quand même une gymnastique différente.
Clac, c'est bon, t'as rechargé.
Ouais, bon. Mais c'est quand même pas les mêmes boutons, le joystick est pas au même endroit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même un apprentissage à refaire, si tu veux, sur un jeu que tu as, pas pensé, mais si tu veux, sur un jeu auquel tu as toutes tes habitudes. Parce que c'est ça, finalement, c'est par habitude, si tu veux, t'arrives à avoir des réflexes qui sont surtout dans ce genre de jeu. Qui sont de plus en plus importants. Et en fait, là, repartir avec tes armes pour rejouer au même niveau que ce que tu étais sur la version précédente, c'est un peu différent. Quoi. Donc du coup, voilà, regretter IM Controller, mais par contre, j'attends énormément de ces maps. J'attends de voir cette immersion, quelle sera la résolution, etc.
Moi, je vois ça comme un Rayman Legend après un Rayman Adventure, où ils reprennent tout le contenu du premier. Et puis ils vont nous rajouter tout un tas de trucs.
Ouais, c'est ça.
Surtout qu'en face, Pavlov, il fait pas rire avec le nombre de maps. Il a déjà un paquet de maps.
Non.
Non, il en a moins que...
Il en a pas beaucoup, et surtout, c'est toujours les mêmes qui reviennent, j'ai l'impression, quand tu fais des parties. Alors, réellement,
je dirais qu'il y en a une dizaine de maps.
Mais je suis même pas sûr.
Si.
Ouais, il y en a une, par exemple, ouais, que j'ai jamais faite, c'est celle où t'es dans la... La plus dégueulasse d'ailleurs,
les prisons,
celle qui est la plus ouverte.
Ah bah, la pire, c'est Stalingrad.
Bah, celle-là, je l'ai jamais faite.
Ou là, ça pop.
La plus ouverte, celle-là, je l'ai jamais vue. Donc. Est-ce qu'il y en a beaucoup réellement, je sais pas, je vais pas m'avancer, je me rappelle pas. Mais bon.
Ouais. Il y en a une dizaine de maps en armes, c'est monstrueux.
Je pense que s'il y a vraiment un point sur lequel en fait Firewall va briller, ça va être sa technique. Parce qu'on est sur UE5, parce qu'on est sur un jeu qui va apporter une nouvelle feature avec la lumière.
C'est ce que j'attends.
Et je pense que vraiment, il y a vraiment moyen de s'amuser. Et
du coup, ça va être des maps nocturnes, du coup.
Non, mais tu vas sûrement avoir énormément de zones sombres en fait, où tu vas pouvoir jouer de ça.
Soleil,
quoi.
Ouais.
Mais voilà, enfin vraiment, Pavlov, il est bien, mais il est quand même hyper vieux comparé.
Il va être daté par rapport à Firewall.
Firewall,
ça,
et là vraiment, j'attends vraiment ça de Firewall. Voilà.
Ok, et écoute, on va voir ce que ça donne.
Donc ça sort bientôt, on sait pas non plus.
On n'a pas la date exacte, hein,
c'est
ça.
Et on n'a pas le prix non plus, mais bon, ça sera le dernier. Enfin, le premier du coup était à 70€ avec l'IM, je crois.
Ouais.
Et 50€ sans l'IM. Voilà.
Ouais, 50 balles, il les vaut. De toute façon, le premier les valait. Ouais. Je pense qu'on n'a pas trop de.
Le premier les valait, oui, parce qu'il était extraordinaire et qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça sur PSVR. Mais avec le recul, il était quand même cher pour ce qu'il proposait.
Il a quand même proposé pas mal de DLC gratos avec des personnages supplémentaires aussi qui sont arrivés.
Alors, les persos supplémentaires, oui, mais je crois que. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, t'as raison. En fait, tout ce qui était. C'est les skins qui étaient achetables.
Oui, c'est vrai. Bah, fallait bien
les maps étaient gratuites.
J'espère aussi que dans le prochain ils vont pas abuser un petit peu là-dessus, justement sur le cosmétique. Après, ça reste que du cosmétique, donc on s'en fout un peu, quoi.
C'est vrai.
C'est pas parce que
j'espère qu'ils vont pas se louper, parce qu'il est tellement attendu, c'est un hit potentiel. Et quand on voit qu'il y a un hit potentiel qui arrive et qui est pas bon, comme en Switchback par exemple,
dès qu'il déçoit un tout petit peu,
PSVR2 s'en prend plein la gueule.
Il s'est fumé.
Ouais.
Switchback a raison.
Oui,
il s'est fait charcler, on en a fait partie, a raison, quoi. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi. Ouais. Ce que j'espère surtout, c'est que techniquement, en fait, au niveau des serveurs dédiés, enfin, des serveurs de Firewall, que ça tienne la route pour le démarrage et qu'il n'y ait pas de bugs, de problèmes de connexion, d'écho des joueurs. Ouais. Parce que, alors, ça, en général, pour une sortie de jeu multi, c'est éliminatoire. C'est que ça va gueuler sinon d'une force, et j'ai vraiment pas envie que ça se passe mal, quoi.
Bah écoute, j'ai envie de te dire comme le premier, hein, parce que les sessions d'attente de 40 minutes
dans le lobby, c'est pour ça que j'en parle, c'est vraiment le truc qui me fait peur.
Ça a duré, mais on a quand même joué longtemps, on a quand même attendu, parce que le plaisir était là, en fait. Le plaisir était au-delà de l'attente, enfin était plus important que l'attente, finalement, puisque on en a passé des heures dans les lobbies.
Chiant, on n'a pas envie de revivre ça, quoi.
Mais justement, déjà alors même si tu as toujours cette attente un peu longue, chose qui avait été corrigée d'ailleurs par la suite, parce qu'il y avait énormément il y avait aussi énormément eu de mises à jour sur l'interface, sur les menus, sur la manière dont c'était géré, donc ils ont aussi beaucoup retravaillé le background du jeu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense quand même, encore une fois, c'est un jeu qui est développé sous UE5. Je pense qu'ils vont pas se louper sur la technique, et à mon avis, le plaisir vraiment va encore l'emporter sur les éventuels petits problèmes qu'il peut y avoir.
Mais tu sais que Internet est cruel.
Ouais, mais Internet est con.
Bah oui, très con, c'est comme ça. Mais il faut, c'est j'espère juste que ça va pas. J'espère que ça va bien se passer, quoi.
Moi, franchement,
pour l'instant,
il y aura, de toute façon, il y aura des problèmes, il y aura des trucs de merde.
Oui, il y aura forcément des trucs qui vont pas. Il y aura aussi des trucs qui vont bien et des gens qui vont dire que c'est nul.
Comme tous les jeux, je veux dire, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Maintenant, l'important, c'est de voir, est-ce qu'il y a plus de bien que de moins bien, et est-ce que tu prends plaisir avec ton jeu.
L'important, c'est d'aimer, Majo. C'est comme ça.
Exactement.
Et d'ailleurs,
est-ce qu'on pourrait parler de No Man's Sky?
Non, ça y est. Ça, c'est coché. Merci. Parfait. The Last Clockwinder. C'est toi qui as eu.
Last Clockwinder. Donc
la joie de tester cette.
Bonne surprise après Across the Valley.
Ah.
Donc un jeu d'automatisation de tâches via des clones. Donc en fait c'est, vous êtes dans un énorme arbre qui s'auto-alimente avec des machines à l'intérieur qui et il faut arroser ces parties de cet arbre, sinon il va mourir. Et donc il y a eu un truc qui marchait plus, donc on vous lâche en haut de cet arbre et puis à partir de là vous allez aller de pièce en pièce pour recréer des tâches. Donc comment vous allez alimenter ces machines? En fait, il va falloir, c'est pour ça que je parlais de Across the Valley, parce qu'il va falloir récupérer des graines, planter les graines, avoir la plante qui va pousser et récupérer le fruit pour en faire après, balancer le fruit dans une machine qui va le broyer pour en faire un jus. Et ce jus te permet d'alimenter des grosses pompes qui vont après fonctionner pour alimenter ton arbre. En gros, c'est un truc dans le genre. Tout le principe de, mais surtout tout le principe de The Last Clockwinder, c'est pas du tout un jeu d'agriculture ou quoi que ce soit, c'est vraiment un jeu de où en fait vous allez avoir un premier robot et vous allez créer des automates, des clones de ce robot qui vont dupliquer vos mouvements. Et c'est super marrant parce qu'en fait, au début, on va avoir un robot qui va par exemple récupérer un fruit. Donc vous allez faire le mouvement de récupérer le fruit en l'enregistrant. Quand vous allez partir, le robot qui va vous remplacer va ramasser ce fruit. Après, il va falloir le robot suivant qui récupère ce fruit, par exemple, pour le jeter dans
un
bac.
Tu crées des automatismes, en fait.
Et c'est des chaînes d'automates. Et alors, au début, c'est 3-4 automates. Et après, vous pouvez arriver à des trucs avec 30 automates.
Quoi, tu dois
cuire
des tomates ? C'est ça ?
Oh, c'est même en vrai.
C'est plutôt bien foutu, c'est plutôt sympa. Et puis surtout, la physique est super bien. Ça, il y a rien à dire. Et même graphiquement parlant, c'est super bien aussi.
Ça a l'air mignon, ouais.
Alors, je me suis amusé. Alors, il y a eu deux versions. Il y a eu la version PC, la version Quest 2. Là, on a bien la version PC avec même au niveau des modélisations, parce que il y a une espèce de porte qui ressemble un peu à des portes de Hobbit rondes. Et quand on voit la version Quest, c'est pas rond, c'est taillé
hexagonal.
Là, on est vraiment sur quelque chose de bien rond. Voilà. C'est pas forcément une crotte de nez.
C'est un constat, quoi.
C'est vrai que quand on achète une PS5 et un PSVR 2, on est content quand on a récupéré la version PC.
Quand on a des portes rondes.
Plutôt que la version autonome.
On peut parler de Blade and Sorcery, si vous voulez.
Garde-le pour la sens, celle-là, t'inquiète. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Putain.
Donc, une bonne surprise. Super sympa. Bon, ça blablate un petit peu, mais sans trop. Et puis c'est vrai que quand on se retrouve dans une énigme, alors il serait peut-être un petit peu court, on va dire, parce que c'est vrai que qu'on avance assez vite. Par contre, la difficulté augmente. Après on va essayer d'optimiser son temps. Il n'y a pas vraiment de niveau de difficulté en fait dans ce jeu-là. Ça va être niveau facile, on va dire. Il va falloir arriver à récupérer tant de fruits, par exemple, avec 10 clones. Et puis le niveau moyen, il faudra arriver à faire la même chose ou plus avec 5 clones. Et puis après, il y a le truc ultime où il faut que tu arrives à faire et que tu optimises, que tu aies le moins de clones possible pour arriver. Alors après,
c'est un système de score ou c'est
Oui, tu peux, parce que en fait, plus tu vas avancer dans le jeu et plus après ces grosses pompes qui vont aspirer ces fruits, parce que t'as plusieurs fruits, t'as les fruits rouges, t'as les fruits violets, t'as les fruits, c'est un peu des fruits extraterrestres parce que c'est des plantes qui viennent d'autres planètes.
C'est des tomates, hein.
Non, ouais, c'est des.
Ah, si, c'est des tomates.
Des plantes. Non, c'est pas des tomates.
C'est rouge, rond.
Ça fait longtemps que t'as pas vu une tomate.
Non, moi, de la merde, ça.
Elles sont comme ça, dans Cross the Valley, ou pas ?
Si tu veux, tu peux jouer à Cross the Valley. Le niveau du son, c'est sympa aussi. C'est vrai que des bonnes petites surprises où quand on se balade dans les escaliers et puis qu'on arrive près d'une fenêtre, on entend le son extérieur de la fenêtre qui est à côté.
Donc, c'est quand même bien bossé, quoi.
C'est très, très beau. C'est très chouette. L'autre truc qui m'a bien plu là-dedans, c'est les niveaux. On ne passe pas d'un niveau à un autre, on est toujours dans le même niveau, mais ça fonctionne avec un système d'ascenseur, on va dire comme la scène du Lido, où tu vas...
Le mec a des références, quoi.
Mais en fait, oui, c'est ça. C'est ce qui est impressionnant quand tu vas au Lido, c'est quand tu es sur scène, les gens démarrent.
J'aurais pas parlé de l'ascenseur, mais bizarrement.
Il n'y a pas que ça au Lido. Et la scène, c'est un ascenseur, puis il va y avoir une nouvelle scène qui va se charger. Et là, c'est le même principe. Vous êtes toujours dans cette même pièce. Et quand vous allez passer d'un niveau à l'autre, en fait, c'est tout le niveau qui va partir comme dans un ascenseur, et il y a un nouveau niveau qui va arriver.
C'est un peu comme 18 Floors, non ? C'est un peu le même principe. Du coup, tu étais sur un étage, en fait, tu finissais, tu passais dans l'ascenseur, tu remontais sur l'étage suivant.
18 Floors, je me souviens pas justement que tu avais des passages à l'ascenseur.
C'était pas le principe justement. Bah, t'avais 9 étages en fait et puis.
Mais tu étais vraiment dans le. Là, tu restes toujours au même endroit en fait.
Ça restait un petit trick pour le changement de niveau, mais il me semble que c'était quand même assez abrupt comme changement. Il y avait pas de continuité en fait dans Hitting Floor de mémoire.
Et il y a toute cette idée de travail à la chaîne où au début bah, c'est qu'un fruit et puis après ça va être des molécules de fruits qu'il va falloir construire. Donc il y a un des robots qui va récupérer les bâtons, un autre qui va récupérer les fruits, après un troisième qui va assembler une espèce de molécule, après cette molécule il faut la balancer dans une presse, donc la presse il faut aussi qu'il y ait un robot qui ouvre au bon moment pour quand tu le lances ça arrive dedans. Donc c'est amusant parce que ça marche jamais,
le concept est marrant en fait,
ça marche jamais
avec le moteur physique qui a l'air quand même bien poussé.
Le moteur physique est sympa.
Incredible Machine,
oui
justement. Oui, ça peut être marrant. En plus, c'est vraiment full.
On peut dire, on parlait d'Across the Valley, on peut dire que c'est un peu la même chose. C'est un jeu qui te force à faire des tâches. Mais par contre, il y a l'intelligence, surtout de la tâche. Mais t'as pas besoin de la faire 50 fois puisque c'est un automate en fait, qui va rester là et qui va la faire à ta place.
Ouais, c'est ça.
Donc, du coup, c'est pas si simple parce que tu vas t'apercevoir que, par exemple, tu vas. Déjà, on parlait de lancer de grenades, bah là c'est pareil, tu vas lancer un truc, mais en fonction de ton dosage, tu vas le lancer soit après, soit. Alors, tu peux rajouter un clone derrière qui va récupérer le truc parce que tu l'as envoyé trop loin et qui va le rebalancer, mais le but du jeu c'est quand même d'avoir le moins de clones possible. Donc tu pars sur ta mécanique de truc, puis tu vas te dire après je vais l'optimiser. Donc du coup je vais mettre deux plantes pour qu'il a deux bras, il puisse récupérer deux fruits en même temps pour en avoir deux fois plus. Et finalement après tu disons que quand t'as créé une map qui fonctionne, tu peux aussi revenir sur ce niveau pour l'optimiser, pour avoir moins de drones et voir comment.
Il a l'air quand même vraiment pas mal, hein, franchement.
Il est très très beau.
Graphiquement, il a l'air joli, mais en plus, je veux dire, le principe un petit peu de rajouter des petites pièces d'automates pour leur faire des trucs, et puis après pouvoir contempler un petit peu justement ce que tu as réussi à produire,
et que ça fonctionne.
Ça a un côté quand même super satisfaisant.
Et après, quand tu vois le tableau où tu vois que les mecs ils arrivent à faire 250 fruits ou légumes avec 4 drones ou 5 drones, tu dis comment ils ont fait ça, quoi. Donc après tu peux chercher, tu peux certes le finir très vite, mais tu peux aussi t'amuser à essayer d'atteindre les objectifs qu'ils te disent. Tu dis s'ils le marquent, c'est que c'est possible, et tu t'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.
D'accord. Donc une certaine profondeur.
Une bonne pioche.
Ok. Donc The Last Clockwinder, alors je sais pas si on dit Clockwinder ou Clockwinder, vous nous corrigerez dans les commentaires. Bon, en tout cas c'est une bonne pioche. Et il a vendu à combien celui-là?
Je crois que c'est 20 balles, mais je ne veux pas dire de bêtises. 20 ou 25, je ne sais plus. Je l'ai marqué dans je l'ai mis dans la preview, mais je l'ai pas.
Majo cherche.
Je suis en pression.
Attention. recharge. Sans le couteau.
Mais non, un bon petit jeu, sympa, chouette, qui passe très bien sur le PSVR 2, qui n'est pas flou. Non, il y a
84 jeux, j'ai dit la recherche est longue.
Une bonne surprise. Une bonne surprise.
Ok. Eh ben, merci Laurent.
24,99
Maryse, merci Majo. Et ben maintenant on va passer.
Personne ne comprendra ces trèfles.
c'est clair, on est vieux, c'est ouf. Hein. On va pas dans le bon sens. Afterlife VR. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu d'horreur? Qu'est-ce que c'est que ce jeu d'horreur? Voilà.
Alors,
Elroco devrait être là, mais je crois qu'il s'est pendu.
Je pense c'est perdu sur le chemin, et du coup, on n'a pas encore trouvé.
Il a d'ailleurs très bien titré L'horreur ou l'erreur.
Voilà.
vous de choisir. Voilà.
Voilà, donc un petit jeu d'horreur qui a été développé par.
Afterlife,
c'est encore une émission très très
préparée. Je sais que c'est distribué par Purps Games dans sa version physique, et le développeur, je sais plus le nom.
Bon, il le dit dans sa preview. Split Lights Studio. Donc, il est proposé à 14,99€.
Ah, c'est un très petit studio déjà.
C'est un très petit studio. Moi, je sais que j'avais eu l'occasion de l'essayer vite fait sur PC. J'ai pas insisté plus que ça parce que voilà, c'est un jeu qui est modeste, très modeste. Pour être poli.
C'est ça. Déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que Elroco est plutôt bon client pour ce genre de jeu.
Pour les jeux d'horreur.
Voilà, lui il adore ça, il adore dès qu'il y a les Madison, les nouveaux jeux qui sortent comme ça, il est content de les faire. Et là, il m'a fait beaucoup rire parce que tout...
il a craqué, quoi.
Parce qu'il a complètement craqué en faisant le test. Je vous dirai pas les messages qu'il nous envoyait, mais il était outré par ce jeu. Donc pour ça,
la preview, c'est la version.
N'hésitez pas à aller voir le preview.
Hein,
voilà.
Ce qu'il pense,
hein. allez voir la vidéo test parce qu'il l'a même noté. Donc en fait rien ne va. Si on devrait résumer le graphiquement, c'est des graphismes d'une autre époque,
PS3.
PS3.
C'est vrai que sous le casque, c'est encore plus moche que dans la preview.
Voilà, ça aliase de partout, c'est flou. C'est flou à 3 mètres.
Même version PC.
Ça aliase de partout, c'est flou à 3 mètres. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre ? Le gameplay est une catastrophe, apparemment.
Le personnage parle tout le temps.
Ouais.
pas dans le ton.
Voilà, en gros,
les jumpscares qui font pas peur, la technique qui est vraiment dégueulasse, le fait que t'arrives dans un hôpital, voilà, mais t'as pas d'armes en fait. Enfin, t'es censé aller dans un hôpital
où il y a une prise d'otage,
mais tu rentres comme ça.
T'as pas d'armes, enfin voilà, il y a beaucoup d'incohérences.
Un inventaire qui n'est pas autour de la ceinture comme la plupart des jeux où on peut avoir accès directement à son matériel, les lampes, les machins, les trucs. Là, c'est directement un inventaire qu'il va falloir ouvrir. Bien sûr, en attendant, ça ne stoppe pas le temps. Donc le temps de trouver l'objet, ben, en général, on se fait déboîter.
Des pouvoirs télékinésiques qui pop comme ça, dont voilà. C'est Zouzou, et qui sont en plus accessibles, utilisables uniquement dans certaines zones. Bon, voilà, ça peut. Vraisemblablement, ça s'explique pas non plus des masses par le scénar, donc c'est pas quelque chose qui est ultra non plus bien justifié, voilà, dans le scénar pour le gameplay. Donc, bon, voilà. Des bonnes idées, encore une fois, mais qui
mal
sont
mal
finies ou trop rapide, voilà, comme des codes. Enfin, il a parlé aussi des codes qui étaient
de
genre limite. En fait, t'as le digicode et le truc a été écrit à côté. Quoi.
Il y a le post-it à côté du digicode. Attention, le code est
au cas où, tu vois. Voilà. On sait jamais. Donc voilà, un jeu qui aurait pu être encore une fois mieux fait. Bon, c'est un petit studio,
c'est une petite équipe, hein, je pense. Hein,
qui mais,
ça,
petite équipe.
Oui, mais encore une fois,
on peut pas tout excuser.
Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Est-ce que c'est ce que ce casque mérite ? Est-ce que c'est
il est qu'à 15€. C'est vrai que quand même s'il est qu'à 15€, tu te retrouves quand même à côté d'un Resident Evil 8
Est-ce qu'on doit faire un test pour protéger un petit studio ou est-ce qu'on doit faire un test pour avertir les joueurs que à côté il y a mieux pour
voilà, c'est à dire qu'en fait si vous n'avez joué à rien, vous pourrez être surpris si on doit vous le conseiller. Il y a d'autres jeux à faire avant celui-là. Voilà
c'est ça,
on va dire. C'est pas
depuis Elroco n'est pas là parce qu'il s'est pendu, voilà.
c'est ça voilà, donc on a perdu Elroco, paix à son âme, voilà.
il n'en pouvait plus d'Afterlife.
C'est ça. Donc voilà, ouais, c'est fou. T'as un paquet de jeux, surtout sur PC, hein, t'as un paquet de jeux vraiment dans ce style-là qui sont faits par des petites équipes qui ont pas forcément du coup les moyens des gros studios pour pouvoir régler tous les petits problèmes techniques, que ce soit graphique ou même que ce soit au niveau du gameplay par exemple. Parce que là, typiquement, c'est le genre de jeu où l'inventaire a mal été pensé, l'utilisation des objets aussi a mal été pensée, et c'est des petit truc, maintenant, quand ça fait depuis 2016 ou même avant qu'on joue en réalité virtuelle, on peut plus tolérer ce genre de choses-là. Et malheureusement, en fait, ils n'ont pas le contrôle qualité, ils n'ont pas le recul suffisant et ni les moyens pour pouvoir proposer juste une expérience satisfaisante.
Alors, le recul, encore une fois, je peux l'entendre. Les moyens, par contre, c'est quelque chose que j'accepte pas parce que faut pas s'étonner après qu'on juge un jeu par rapport à la concurrence mauvais. Si tu sais qu'il y a des choses, enfin, aujourd'hui tout le monde s'inspire de tout le monde. Enfin, tu prends Horizon Forbidden West. Là, je vais pas parler VR, je vais parler de jeux en général, qui s'est fortement inspiré de Zelda Breath of the Wild avec la pseudo paravoile, puisque c'est ce qui lui avait été reproché à l'époque parce qu'il était sorti en face. Ce genre de truc, ou même Assassin's Creed Origins, qui a été le renouveau de la série Assassin's Creed à l'époque après Black Flag,
qui s'était un petit peu Dark Soulsé.
The Witcherisé.
Oui, Dark Souls.
Donc du coup, voilà, c'est des choses vraiment pomper des concepts, etc. C'est des choses qui se font surtout, et ça devrait être encore plus fait chez les petits studios, parce que il faut qu'ils arrivent à se démarquer, ces studios. Enfin, on n'est pas en fait sur le PS Store. Des fois, t'as un peu l'impression sur certaines prods que c'est un fourre-tout indé ou un fourre-tout à stagiaire, quoi. C'est-à-dire que voilà, bon,
c'est le problème de la VR en général, c'est pas que du PS Store.
Les trucs ont des jeux les studios sont nouveaux, ils se font la main, donc en fait, ils ont des trucs à proposer. Donc bon, on va proposer ça à 15 balles, c'est pas très cher, bon, voilà, machin, on s'est fait la main,
on verra ce que ça donne.
Ça fait labo un peu.
Il y a un moment où, faut aussi se donner les moyens de ses ambitions. Je vais reparler de. Enfin, oui, on va parler. Je vais faire le parallèle avec Wanderer. Wanderer, on les a pas vus venir. Les mecs qui se sont fait plaisir, ils ont donné énormément de ce qu'ils pouvaient, et le jeu il est superbe.
Et ça marche.
Par contre, il est pas 15 balles. via 40 balles. Voilà. Donc là, on en revient toujours à ce qu'on dit, à ce que je dis, à ce que je pense sur ce sujet-là, c'est faut arrêter avec les jeux à 15 balles, quoi. Il y a un moment où on peut pas dire ouais, putain, la VR, on nous sort que des jeux de merde, on a que des petites productions, etc. Et puis dire ah bah ouais, mais non, 45€, c'est trop cher. Non, vous comprenez, les gars, il y a un moment où
il faut de l'ambition, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Faut se donner les moyens de ses ambitions, surtout. Et un jeu, et on peut dire ce qu'on veut, un jeu ambitieux et un jeu bien fait, bien fini, ça prend du temps. Le temps, c'est du temps de développement, des développeurs, des gens qu'il faut payer. Donc forcément, il faut payer le prix que ça coûte à la production, et puis c'est tout. Et puis, malheureusement, et ça a toujours été comme ça depuis des années, si les gens ne peuvent pas s'acheter le jeu Day One, et ils attendent un petit peu qu'ils soient en promo ou qu'il y ait de l'occasion, et en attendant, il y a d'autres jeux à faire, voilà. Ça, c'est une philosophie, je pense, que les gens oublient aussi. Parce que, en fait, tu peux pas taper d'un côté et dire « les jeux sont trop chers » et taper de l'autre côté à dire « non, mais les jeux sont merdiques ». Enfin, il y a un moment où il faut aussi être cohérent dans ce qu'on veut.
Juste milieu.
C'est-à-dire que tu veux des bons jeux, forcément, ça coûte cher puisqu'il va falloir du temps pour les produire. Et puis, tu veux pas payer très cher, faut pas t'étonner que t'aies des jeux de merde. Voilà. Ou alors des redites de vieux jeux qui ont des années, qui sont des petits portages, qui... très peu en
développement. Ou des petites expériences qui coûtent pas cher, mais qui sont bien. Et, ça, et dans ce cas-là, c'est crédible.
Et là, encore une fois, on est sur un jeu à 15€. Donc, oui, effectivement, il est, entre guillemets, à la hauteur de ce qu'il demande, en fait, en investissement financier. Ouais. Finalement, je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut conclure, en fait, pour ce jeu-là. C'est que 15€, en fait, t'as ça. Alors oui, on va me sortir. Ah oui, mais il y a des exceptions. Oui, mais il y a tel jeu, il est hyper bien. Et il coûte 15 balles ou 9 balles ou ce que vous voulez. Oui, très bien. Mais enfin, en attendant, un vrai jeu qui sort, qui n'a pas de passif ou qui n'est pas une Reddit ou qui n'est pas sorti sur 1 million de plateformes, il y a un moment où il faut quand même que le jeu... il est un minimum de temps de développement, et le temps de développement, ça coûte de l'argent.
Voilà. Alors comment est-ce que tu arrives à expliquer cette façon de penser là quand tu vois des trucs comme le Game Pass?
Moi je te l'explique dans le sens où...
les pieds dans le plan.
Ça va, mais tu peux...
Parlons-en du Game Pass.
C'est même pas le Game Pass le problème. Je pense que c'est les joueurs le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là je vais partir dans de la philosophie de comptoir, les gens ne finissent pas leur jeu. C'est-à-dire que je ne comprends pas les gens qui pleurent. Je ne comprends pas les gens qui pleurent parce qu'il n'y a pas de jeu. Et en fait, je ne comprends pas non plus ce que les gens attendent, finalement. Parce que dès qu'il y a un truc qui sort, en fait, j'ai l'impression que les mecs cherchent la perfection. Mais déjà, la perfection, ça n'existe pas. Donc, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. La perfection n'existe pas tout simplement parce que chaque joueur n'a pas la même attente. Nous, on est tout le temps à rabâcher qu'on veut des jeux qui sont beaux, qui sont contemplatifs, etc. Parce qu'on aime ça, parce qu'on est habitué, on l'a déjà dit, on a vécu une génération en fait, où chaque évolution de hardware, en fait, voyait une évolution technique visuelle qui était très importante.
Depuis la PS4, PS5, ça
aujourd'hui, aujourd'hui ça régresse. Sauf que, en fait, la VR est arrivée. La VR nous a fait faire un petit pas en arrière d'un point de vue technique, mais par contre, nous a fait faire un énorme pas en avant d'un point de vue immersion.
Oui. Ça, c'était en 2016. Hein.
Et bien, justement. Ouais, et donc, du coup, il faut que cette évolution aussi, elle vienne, en fait. Elle arrive techniquement telle qu'on l'a connue, parce que c'est normal. Et c'est aussi ce qu'on voit, même si on a des jeux, comme on vient de parler, là, Afterlife ou Switchback tout 2016. On a quand même des jeux qui sont extraordinaires et techniquement et visuellement, et on a des ça fait l'effort, quoi. Et je vais parler d'Horizon parce que je l'ai refait, je m'y suis mis du coup parce que j'ai enfin entre guillemets fini GT7, du moins pour le mode menu.
Félicitations.
Merci. Sauf que en fait il est pas fini, puisqu'une fois que tu le finis, t'as 20 menus supplémentaires qui viennent se greffer. Mais bon, c'est vraiment pas plus mal tellement ce jeu est bien. Bref. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a gueulé. Oui, Horizon, c'est un scandale, 70€, ok, c'est très cher. Oui, c'est très cher, le jeu fait 8 heures, ok. Simplement, merde, quoi.
Tu l'as vu, au moins?
C'est le plus beau jeu, aujourd'hui, que j'ai vu, et j'en ai fait des jeux, là, aujourd'hui, là, vous voyez, on est... j'ai fait des jeux sur PC, d'accord. Donc, j'en ai fait un paquet, et putain, ce jeu est magnifique. Alors oui, c'est Escalade Simulator. Oui, il y a 80% d'escalade, ou 70% d'escalade, 30% de combat et 5% de craft, si vous voulez. Mais il y a un moment où il faut aussi profiter
de
ce qu'on propose, quoi. Et je veux dire, là, on est clairement sur quelque chose qui propose de la technique pure, en fait. Et c'est de l'escalade, mais putain, une fois que t'es arrivé en haut d'un mont, Mais moi, j'ai passé 10 minutes à tourner en rond pour regarder les détails, regarder les cascades au loin, regarder ce que je vois pas, ce qui pop, ce qui est pas bien, ce qui est bien. Et putain, c'est ça un jeu, je veux dire, il faut profiter de ce que t'as. Là, on t'offre sur un plateau un jeu qui est magnifique. Alors oui, c'est un petit peu délavé. Oui, quand t'es dans le hub, c'est beaucoup plus joli que certaines zones du jeu. Oui, tu as d'autres zones, notamment ce qu'on a vu dans le trailer où t'as toutes les cascades, qui est aussi plus nette et beaucoup plus beau que d'autres passages dans le jeu.
T'as certains passages, ouais, qui sont notablement plus jolis.
Mais putain, t'es dans l'univers d'Horizon. Et Horizon, la licence en elle-même n'est pas parfaite. C'est un jeu qui a énormément de défauts, ne serait-ce que par son gameplay, parce que c'est un jeu en monde ouvert à l'ancienne. Mais putain, le jeu est magnifique. Chaque environnement, chaque zone où tu vas, c'est pour moi quelque chose où je prends plaisir. L'émission, Forbidden West, j'en avais parlé, il est long, mais putain, j'ai jamais pris autant de photos que dans ce jeu, avec le mode...
Le mode photo.
Voilà. C'est un truc de fou. Et le plaisir, en fait, que j'ai trouvé dans ce jeu, il est là. C'est-à-dire que ça va pas être de faire ma quête FedEx et aller chercher le machin qui est au fond de l'eau pour le donner à l'océram du coin. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas vraiment ce que je vais rechercher, mais le jeu te propose ça, et en te proposant ça, si tu veux, t'emmène dans des environnements qui sont magnifiques. Profite de ça. Utilise tes yeux, prends du temps. Et aujourd'hui, et c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on parlait du Game Pass et quand je dis que les gens ne terminent pas les jeux, le gueule d'orage, donc. On a eu la promo, c'est pas un spoil dans Call of the Mountain.
Call of the Mountain.
C'est le premier tiers du jeu. 20% des gens qui ont acheté le jeu l'ont vu. Donc 20%, c'est-à-dire qu'un joueur sur 5 qui a acheté le jeu, donc que ce soit en bundle avec le casque ou pas, a été jusqu'à ce passage.
Jusqu'au premier tiers du jeu.
Je vous laisse même pas imaginer le nombre de personnes qui ont fini le jeu. GT7, c'est pareil. GT7, donc je l'ai fini, donc j'ai accès au trophée, et on est sur à peu près la même variable. Donc c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est là en train de... Enfin, les gens sont là, le public est là, les réseaux sociaux sont là, et c'est parce que c'est ça en fait finalement, c'est qu'aujourd'hui, tout se fait par les réseaux, on a l'impression qu'en fait, il n'y a que les réseaux qui sont importants, il n'y a que les réseaux qui comptent. Et aujourd'hui, putain, mais... Finissez vos jeux, bordel, avant de gueuler. Vous achetez des trucs, vous dépensez des fortunes, vous dites que c'est trop cher, vous êtes capable d'acheter des jeux Day One, vous êtes capable de précommander des jeux qui sont merdiques, dont vous ne savez rien, et putain, mais vous les finissez même pas, quoi. Et c'est un truc de fou. Et après, ça gueule. Ouais, mais y a pas de jeu, y a machin. Mais prends le temps déjà de finir celui que tu viens d'acheter. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut arrêter.
Il est parti.
Et, ouais, carrément.
J'avais dit qu'il y avait... Et où la caméra? Et où la
caméra? Dit qu'il y avait un sujet qui m'énervait. Mais ça, en fait, ça m'agace parce que... Et on en parlait entre nous, mais j'ai l'impression en fait que avec cette mentalité-là, au bout d'un moment, les gens vont saturer et en fait n'achèteront plus rien.
C'est clair.
Et le problème, pour pallier à ça, justement, le fait de ne plus acheter de jeux, etc., ben, il y a donc ces fameux systèmes d'abonnement. Et là, je ne l'ai pas. Alors, il faudrait que j'enquête un peu plus profondément, du moins sur le PS Plus, mais on est encore une fois pas sur la même proposition. Mais je serais... très curieux de connaître le taux d'achèvement jeux du Game
Pass. De complétion, ouais.
Voilà. Vraiment, parce que moi...
Je pense que ça va t'énerver.
Moi, pour avoir eu le PS Plus à l'époque où j'ai voulu faire Kena... Stray, pardon. J'avais transformé... Je voulais essayer le PS Plus et à l'occasion de la promo... de l'entrée de Stray, pardon, dans ce système... Du coup, je m'y suis essayé et en fait, ben, je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que j'ai picoré énormément de jeux que je n'avais jamais essayé, qui étaient sur des générations précédentes ou sur même des jeux rétro, c'est-à-dire des jeux PS3, des jeux PS2. C'est des trucs que j'ai lancés pour regarder, ou même des jeux VR, puisque j'avais essayé Tetris Effect aussi à l'époque, que je n'avais jamais fait. Mais j'ai jamais été jusqu'au bout de tous ces jeux, en fait.
Tu n'as pas la valeur du jeu, en fait.
Et on est clairement dans de la boulimie, finalement.
C'est ça.
Donc... On peut dire ce qu'on veut, ouais, vous êtes des anti-Game Pass, vous êtes des... Non, on n'est pas des anti-Game Pass. Nous, enfin, moi, du moins, je ne suis pas un anti-Game Pass. Je suis juste un mec qui, en fait, quand il commence un jeu, aime le finir. Aime aller jusqu'au bout, aime voir ce que ça propose, que ça soit bien ou pas bien. J'ai fait la démarche de l'acheter. Et à l'époque, putain, nous, on achetait nos jeux sur jaquette, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément...
On se faisait bien voir, d'ailleurs.
On n'avait pas forcément... comment dire, tout ce recul, toute la communication qu'on a aujourd'hui, qui d'ailleurs est d'une surabondance incroyable, enfin je veux dire. Et aujourd'hui, tu peux tout savoir avant même que les devs ou que les studios ou que les constructeurs ou qui tu veux, si tu veux, aient communiqué sur le jeu. Et en fait, On est sur un truc qui crée aussi des attentes démesurées et les gens et c'est à l'image de ce qu'on a aussi vécu quand on a reçu nos PSVR 2 où on s'est dit oh putain mais en fait c'est pas du tout ce qu'on nous
c'est
a vendu.
C'est pas si ouf que ça.
Et en fait c'est pas que c'est pas si ouf que ça, c'est que c'est pas ce qu'on nous a vendu. Et c'est encore une fois là on est sur une erreur de communication, mais l'erreur de com elle est pas non plus faite de la part de PlayStation. Elle est faite par les gens qui autour, en fait, en ont parlé. Alors, on peut dire qu'elle est faite de la part de PlayStation, puisque PlayStation a communiqué uniquement via des influenceurs. Mais, ok, mais enfin, il y a un moment où il faut quand même choisir ses mots. Si vous nous suivez, enfin, vous savez comment on est. Je veux dire, on est quand même assez exigeant, franc du collier. Quand il y a un truc qui va pas, on le dit en général. On n'est pas. Enfin, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a des trucs qu'on n'a jamais eu.
C'est aussi pour ça qu'il y a des studios qui veulent même plus nous parler.
Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que putain, il y a un moment où allez jusqu'au bout de ce que vous allez acheter, parce que c'est pas vous rendre service, c'est pas rendre service aux devs, c'est pas rendre service aux jeux vidéo. Et oui, tout le monde n'a pas d'argent pour se payer des jeux, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours le jeu du moment, au moment où ça sort. C'est pas une obligation, vous avez toute votre vie pour les finir, les jeux. Il y a des jeux PS4 que j'ai achetés que je ferai plus tard. C'est comme ça, mais aujourd'hui, quand vous commencez quelque chose, ayez au moins l'envie d'aller jusqu'au bout, parce que vous, en fait, finalement, vous passez à côté de plein de choses, quoi. Voilà. C'est juste ça.
Merci, je me casse.
Moi, je dis.
C'est ce qu'on disait au dernier podcast, quand je parlais de Runner. Runner, le jeu de manga Akira Moto. Ça m'a fait marrer quand on a sorti la preview, parce que j'avais mis tout le monde disait que c'était un jeu formidable, super génial, parce que bien sûr on a les codes directement des studios, donc tout le monde dit c'est génial, mais sauf que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quand tu passes au niveau 4, à partir du niveau 4, et ben le jeu il est vachement plus moche que le niveau 1. Et c'est sûr que quand tu lances le niveau 1, tu dis waouh, c'est classe. Même si c'est du cel shading, même si c'est l'ambiance est liée,
ça marche.
Ouais, c'est chouette. Puis après, tu t'aperçois que, et ça justement, le fait que les gens finissent pas les jeux, le nombre, je pense aussi à, comment il s'appelait, Intruders Hide and Seek, qui était très bien au début, et quand on arrivait sur la fin, quand on avait bouffé les 50% du jeu, on s'apercevait qu'il n'y avait plus rien dans les pièces.
Est-ce qu'on peut aussi rebondir sur, et ça c'est scandaleux, sur jeuxvideo.com, je cite, voilà, j'ai pas peur, je cite, qui dit officiellement, enfin, une de leurs chroniqueurs, pardon, dit officiellement, mais de toute façon, un jeu comme God of War, t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout pour lui donner une note. Mais c'est scandaleux d'avoir des propos pareils. C'est scandaleux. Quel message t'envoies aux développeurs? C'est-à-dire que le mec il se fait chier à finir un jeu, à le peaufiner.
C'est un truc qui est connu de toute façon depuis des années, c'est-à-dire que le premier 15%.
Effectivement, on a eu une période effectivement où énormément de testeurs ne finissaient pas les jeux, ne jouaient qu'au, comme tu dis, le premier 15%, et se faisaient une idée de ça. Sauf qu'il y avait des devs qui en abusaient, c'est-à-dire que le jeu était bon dans les premiers 15%, et après c'était de la merde.
Après ça se cassait
le jeu. Exactement. Donc, faites l'effort d'aller jusqu'au bout, ou alors, si vous voulez consommer du jeu vidéo comme ça,
S'étonner après que
exactement du
ça, ça, ça va plus loin que ça, parce que même certains professeurs dans des écoles spécialisées sur Angoulême par exemple qui font des jeux vidéo ont des cours où justement ils parlent de ça. Donc les jeunes développeurs français qui sont en train dans des écoles, eh ben il y a déjà des profs qui disent attention, vu que ce jeu il y a 15 ou 20% de gens qui vont le finir, à partir de ce niveau vous pouvez plus travailler sur les premiers et moins travailler sur les donc déjà il y a ça qui s'est mis en place dans les écoles. On voit quand même que c'est un problème, quoi. C'est un truc.
Et c'est dramatique. Voilà.
Et c'est le même système qu'on a aussi sur les séries télévisées dans les abonnements Netflix ou n'importe quel Disney Plus ou compagnie. Hein, c'est la même chose.
On peut parler Star Wars.
Vont faire les premiers épisodes.
On peut parler de la surabondance.
Pour accrocher les personnes et puis après on s'en fout.
Et puis après tu te retrouves avec du Obi-Wan ou du.
C'est ça. Non, mais on peut parler de la surabondance et de l'essorage à outrance pour fournir du contenu. D'une licence, quoi.
Quelle que soit la qualité du contenu, ça fournit du contenu.
Je veux dire, aujourd'hui, Star Wars, enfin, pour une génération comme la nôtre, Star Wars, c'est quelque chose, et encore, moi, je suis un petit peu trop jeune, je pense, pour avoir bien vécu la première trilogie, enfin bref, c'est quand même quelque chose, c'est un monument. C'est-à-dire que Star Wars, il y avait le 4, le 5, le 6, après, il y a eu le 1, le 2, le 3, qui a été critiqué à l'époque, mais qui, bon, avec le temps,
qui a réussi à récupérer
mais aujourd'hui,
la population publique,
mais qui avait quand même une aura. Voilà, il y avait une aura. Aujourd'hui, ben Star Wars, c'est mort. Je veux dire, la licence, mais tout le monde s'en branle. Dès qu'on dit Star Wars, en fait, mais moi j'ai peur. J'ai peur.
Il y en a tellement.
Alors qu'avant, on disait Star Wars, c'était l'engouement. Tu te posais pas de questions.
Ben disons qu'il y a quand même pas mal de souillure ces dernières années sur Star Wars.
Mais il y a pas que Star Wars. On parlait
en trop grande quantité surtout.
On parlait d'autres films. hier soir. Et il y en a d'autres justement auxquels on touche pas, et surtout il faut pas toucher à l'univers, même s'il y a eu quand même 2-3 trucs, mais on parlait de Retour vers le
Retour
futur.
Retour vers le futur, faut pas y toucher, Gremlins, faut pas y toucher.
Même s'il y a eu, il y a eu des petites séries à l'époque, dans les années 90, justement sur l'univers autour de la future, mais qui ont pas duré très longtemps, mais c'est quelque chose où, voilà, enfin aujourd'hui, il y a un manque de création d'un côté, et il y a un manque d'envie et de jusqu'au-boutisme, en fait, de la part des joueurs aussi. Et pour moi, ça pose problème. Faut arrêter de consommer pour consommer, parce que au bout d'un moment, je pense que ça clashera, et on risque d'arriver. Oui, j'emploie le terme, puis vous direz ce que vous voulez, j'en fous. J'emploie le terme, ça risque même d'aller jusqu'à une crise, parce que au bout d'un moment, ben, quand les joueurs ils en auront plein le cul de jouer 10 minutes, 15 minutes à un jeu qui leur va pas, en fait, ben, ils arrêteront. Et donc au bout d'un moment, ils se désabonneront, et ça finira comme ça. Alors
je sais pas s'ils se désabonneront.
Et c'est pas qu'une question justement de Game Pass, pour rebondir dessus, parce que quand on regarde un petit peu la gueule justement du PlayStation Store et de ce qui est proposé sur le PSVR 2, on en est complètement là. C'est-à-dire que là, en fait, on se retrouve avec des productions qui sont quand même,
alors oui et non,
amatrices et pas ouf. Quand tu essayes plusieurs fois des Across the Valley et puis que t'as l'impression de te faire prendre pour un pigeon, normalement tu vas plus acheter, quoi.
Mais bien sûr qu'il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut pas faire de ce genre de truc une généralité.
Ah non.
Mais si
non,
déjà non. Les gens, t'as 10 jeux. Allez, sur les 84 jeux, on va dire qu'il y en a 60, c'est de la merde. Donc ça veut dire qu'il en reste 24. Si t'as 24 bons jeux, que tu vas jusqu'au bout de ces 24 bons jeux. Oh, tu peux me dire combien de temps tu vas mettre ?
Un paquet de temps.
Ça fait, le PSVR 2, il est sorti le 22 février. Donc là, on enregistre, on est le 21 avril. Donc ça fait 2 mois. Mm-hmm. 2 mois pile poil. J'ai fini Gran Turismo 7. Un jeu.
C'est vrai.
Un jeu. 70 heures de jeu. Et encore, je ne l'ai pas fini.
Mais j'ai joué à ce jeu. Derrière, quoi.
J'ai joué à ce jeu. J'ai profité de ce jeu. Je vais encore en profiter parce que j'adore.
Et puis en plus, tu as encore le multi et tu l'as pas fini du tout.
Exactement. En fait. Donc il y a un moment. Arrêtez de pleurer et de dire oui, pas de jeu, on n'a pas le temps de finir. Merde, il y a rien qui sort, c'est que de la merde, machin. Mais déjà, profitez des bons jeux. RE8, ok, 20h, 25h.
RE8 en VR, combien l'ont fini? Combien des gens ont les couilles de terminer jusqu'au bout? Et combien l'ont terminé?
Moi, ce que j'aime bien faire, moi, c'est mon garçon de 15 ans,
oui,
avec son groupe de potes qui sont toujours en train de parler de jeux vidéo. Et tu observes, tu vois leur habitude de fonctionnement. Et c'est vrai que je vois son copain, par exemple, qui a un abonnement pareil de jeux vidéo. Quand tu leur balances 300 jeux comme ça avec un abonnement, eh ben, ils vont faire aujourd'hui, j'ai fait 3 minutes de celui-là, 3 minutes de celui-là, 4 minutes de celui-là, 5 minutes. Ça, c'est un cas de figure. Donc, ils vont picorer un petit peu comme nous quand on avait nos cartes DS-Link craquées où on mettait 300 ROM dedans. Et au final, on jouait à aucun jeu. Alors que quand j'ai eu la première DS, eh ben, les Zelda, les machins, je les ai bouffés en entier. Au moment où j'ai eu ces cartes-là, je ne jouais plus à rien. J'étais plus occupé à aller chercher des ROM pour être content d'en avoir plein. Et quand j'en avais plein, je jouais à rien. Et au final, à partir de ce moment-là que j'ai eu cette carte, j'y jouais plus à rien. Et le deuxième cas de figure, il y a aussi des jeunes qui vont, on aura beau leur donner 300 jeux, ils joueront toujours à soit Fortnite, soit Minecraft, soit je sais pas quel jeu. Ils ont toujours leur truc et ils changeront pas. De toute façon, ils sont même pas intéressés par un nouveau jeu. Donc ça, c'est plus l'aspect communautaire de certains qui ont pris le dessus, et que c'est même plus des jeux, c'est devenu des systèmes à part entière, en fait. Mais comment ça va évoluer tout ça, c'est une bonne question.
Les consommations changent de toute façon, et puis voilà. T'as trouvé pourcentage?
Alors Resident Evil 8, c'est un peu compliqué parce que en fait
ça compte aussi la version plate, non?
Non, alors certainement, mais surtout en fait il y a un trophée par niveau de difficulté. Donc du coup ça fait 4 trophées différents. On peut pas faire la somme en fait de chaque pourcentage, mais bref. Là si je prends le truc, si tu additionnes tout, mais c'est pas aussi simple que ça, donc forcément ça marchera pas. On n'est pas loin des 100%. Donc du coup, j'y crois pas une seule seconde. Mais c'est pas le bon exemple. Mais du coup il y en a d'autres, je vais chercher d'autres.
On va chercher d'autres. Bon, t'en cherches un autre pour la centième, du coup. Bon, on va peut-être passer du coup au dernier sujet. Tu voulais reparler de Creed.
Creed.
Alors, bon.
Alors, Creed, alors déjà, Creed, c'est une vidéo qui va pas tarder à sortir, mais on a pris du retard dessus. Pourquoi? Parce qu'on a fait aussi un petit article cette semaine.
Du week-end, et puis,
sur, alors déjà, ouais, on a fait un article cette semaine sur les ROM. Les ROM, ça c'est j'étais avec ma carte DS.
Les modes
PC et une vidéo, bien sûr, une vidéo de design concept pour présenter un petit peu tout ça. On en reparlera à la centième. Donc pour l'instant, donc du coup on faisait ça. Mais Creed, eh ben, on en reparle vite fait. Le jeu est plutôt beau. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est plutôt bien fait. Les modélisations ont été modifiées, notamment quand on voit les qualités des pots.
On rappelle qu'il est déjà sorti aussi sur PSVR.
Ouais. Donc il y a une nette amélioration quand même entre la version PSVR 2 et PSVR. Ça, c'est, il n'y a rien à dire. Bon, par contre, c'est sûr que ça reste le jeu de boxe par excellence. Donc c'est un jeu de combat. Donc on va enchaîner en mode campagne. On va enchaîner les différents combats pour arriver jusqu'au titre. On va rencontrer au niveau des différents personnages tous les personnages qu'on a pu revoir dans les Creed et dans les Rocky. Notamment le russe, je sais plus comment ils appelaient le russe.
Ivan Drago.
Mr. T, tout ça, ils y sont tous.
Cleberlang.
Voilà. Donc, le jeu en lui-même est sympa. Ça reste un jeu de boxe, donc bien sûr, on va distribuer les coups, on évite les coups et on met des coups. Voilà, en gros, c'est ça. C'est très physique. C'est vrai qu'après une grosse session de 3 heures, à la fin, on a mal aux épaules et on a mal aux bras. Après, ce qu'il faut dire dessus, c'est que j'ai eu pas mal de bugs quand même. Donc ça a été par exemple en ligne, je me suis retrouvé en train de me battre contre un type, mon bras s'est collé sur lui, et quand je reculais, mon bras s'allongeait, donc il faisait 10 mètres de long.
Wow.
Et le type en face, vous voyez qu'il est, on arrêtait de se mettre des coups, puis on se regardait, et puis je lui faisais comme ça, je pouvais rien faire, et j'avais mon bras qui était collé sur lui.
C'était le mode One Piece.
Donc ça, je l'ai enregistré, vous le verrez dans la vidéo. Et puis pas mal de problèmes aussi, par exemple quand on tape un sac dans la salle d'entraînement, le bras traversait le sac, et après quand on reculait, c'est pareil, le bras s'allongeait.
C'est des problèmes de collision. Ouais. Des bugs de collision, ça.
Donc des petits bugs, après ça plaira. De toute façon il n'y a pas de secret, c'est vraiment un jeu de bagarre, de baston. Ceux qui adorent ça, ils vont adorer. Le jeu est propre, par contre faut pas s'attendre à plus que ça au niveau de l'histoire ou au niveau de... ça reste un enchaînement de fight plutôt sympa. Une bonne surprise. Et puis dans la preview, je vous mettrai beaucoup plus de détails que
est-ce
ça.
Est-ce qu'il est plus beau que la version d'origine?
Oui.
Beaucoup plus beau?
Franchement,
mais juste plus net, est-ce qu'on a une amélioration?
Non, pas que plus net, parce que je me suis amusé à vraiment me rapprocher des personnages, et tu vois que les textures, c'est
bien travaillé. Ouais. Quoi.
À les pores de peau, tu les vois, hein. tu vois même les gouttes de sueur sur les joueurs. Non, c'est vraiment bien.
Ça, tu les voyais déjà à l'époque, non?
Ça reste
j'en avais pas le souvenir.
Les gouttes de sueur et tout, il me semble que tu les voyais sur le premier cri.
Non, il est de toute façon. Truc de sûr, c'est que les textures ont été remaniées, ça c'est certain. Il est net. Après, c'est vrai que si t'aimes pas trop taper, disons que c'est pas un Street Fighter où tu vas avoir des tonnes de t'as juste des esquives et des coups à mettre en fait.
Ça reste un jeu sportif, quoi, on va dire, pour ceux qui aiment
bien
bouger.
Très très physique. Ceux qui aiment bouger vont être comblés. Ouais.
Ok.
C'est un très bon jeu pour ça.
Bon.
Mais une bonne surprise. Franchement, c'est un truc qui aura un pouce haut. Il y a pas de souci.
Voilà. Si vous avez pas eu l'occasion déjà de le découvrir sur PSVR, c'est toujours une bonne occasion d'y retourner, quoi.
Voilà.
C'est une valeur sûre.
Avec des meilleurs contrôleurs, surtout.
Oui, des meilleurs tracking, et ça, ça lui fait pas
mal.
Quelques
bugs, mais je pense que ce sera corrigé. Et... Puis c'est pas non plus dramatique. Ça arrive de temps en temps, ça fait sourire.
Il n'y a pas de mise à jour sur celui-là possible. Ou s'il y a une upgrade payante, gratuite.
Ah, tu veux dire PS4 vers PS5,
ouais.
Vers PS5.
Bonne question.
Arrête de poser des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Mais on passe pour
des coups. En plus, je me suis posé la question de ça. Je sais plus. Je suis allé voir et je me rappelle plus. Je sais plus.
Très bien.
Je vais chercher.
Il y a trois salles d'entraînement qui sont plutôt bien retranscrites dans différentes villes et c'est vraiment les salles d'entraînement de boxe. On retrouve Rocky, on est content de latter Rocky, on dit putain je suis plus fort que Rocky. Le nombre de personnages, c'est il y en a énormément. Je les ai pas comptés, mais je dirais qu'il y en a entre 14 et au moins 14 personnages. C'est clair que pour ceux qui aiment la boxe, c'est un incontournable.
Qui aiment le bagarre.
Voilà.
Donc Majo, t'as ta réponse à ta question.
Avec les musiques des films.
J'ai pas l'impression.
Ça c'est bien ça.
Je n'ai pas l'impression. Voilà.
Bien. Et du coup voilà. c'est repassage à la banque.
On est sur un jeu à 40 euros quand même.
Ouais.
Voilà. Ouais. Oui, il a pas décoté en fait. Hein.
Non. Et puis sa grosse force, ça reste quand même le multi parce que. même quand t'as fini la campagne elle va te prendre un bon petit moment, parce que au début ils sont faciles, hein. Au début tu dis putain je suis trop fort et j'arrive à les latter, et puis après tu t'aperçois que tu te prends ces mandats, t'as rien compris, ouais. Et puis après ça se joue sur des rounds qui vont être de plus en plus longs, parce que quand tu commences à galérer tu fatigues. Donc quand tu fatigues ton personnage, en plus il se fatigue aussi dans le jeu. Alors ils ont rajouté un mode là-dessus pour désactiver ça, donc du coup en fait ton personnage ne peut plus se fatiguer si toi tu n'es pas fatigué. Donc ça c'est très bien, parce que maintenant tu peux aller au bout de, parce que ça pouvait être chiant ça, tu n'étais pas fatigué, tu avais foutu trois mandales et
ouais, c'est le principe du jeu quand voilà. même. C'est le principe d'un jeu de boxe, c'est qu'au bout d'un moment ton personnage est fatigué.
Et le principe du truc, c'est qu'avant chaque combat tu as une séance d'entraînement dans ces trois salles où tu vas faire des petits entraînements, où tu vas avoir un sac avec des trucs qui vont s'allumer, il faut taper le plus vite
et tu vas améliorer ton endurance.
À la fin tu as un score, et si tu as eu 5 étoiles, et ben tu as ton endurance qui est au maxi. Si tu as mal fait ton entraînement, tu démarres à 1 étoile, et à peine tu vas te retrouver en face, tu seras déjà essoufflé, tu vas t'en prendre plein la figure. Mais après ça tu peux le désactiver, donc. Et après, ceux qui aiment vraiment le côté physique, c'est vrai que après quand tu tombes sur des mecs qui sont assez chauds, tu t'aperçois que tu vas être à 4 ou 5 rounds, et à la fin de la partie t'es scié, quoi. Et moi je sais que le lendemain je me suis réveillé, j'avais des courbatures.
J'ai bien, je me suis battu toute la nuit.
Oh, j'ai des muscles là. Je savais pas. Aïe.
Ok. Bon.
Mais non, c'est un bon jeu, franchement. Je conseille.
Tu conseilles.
Voilà.
Moi, je sais que typiquement, c'est pas.
Ceux qui aiment pas les jeux de boxe, n'y allez pas. Le
jeu qui m'attire.
Ceux qui aiment ce genre de truc, ben, franchement, oui.
Il a son public.
J'avoue que je l'ai jamais fait parce que j'ai toujours eu peur avec les moves, en fait. Donc là, maintenant.
Faites très attention à votre gardienne.
À votre télé.
Mettez-vous très loin de la télé. Parce que là, par contre, ça pardonne pas. Parce que. Disons que plus vous tapez fort, plus vous allez faire des dégâts en face. Donc quand vous mettez un coup de poing, vous le ralentissez pas, vous portez les coups. Et donc s'il y a quelque chose en face, ben, là oui.
Un enfant, un chat, une télé, une conjointe, voilà. Après ça fait des histoires. Bon bah voilà, bah, du coup Creed, encore une bonne pioche. C'était déjà une bonne pioche sur le PSVR, bah, celle-là aussi sur le PSVR 2.
Ouais.
Après, c'est le même jeu mais plus beau, quoi.
Voilà.
Si vous l'avez pas fait, bah, profitez.
Ah, c'est la même chose.
Ouais. Voilà. Très bien, bah, messieurs, je pense que... Du coup, pour cette 99e émission, t'as vu, sans bafouiller.
Pour cette
99e émission, on s'en est plutôt bien tiré, ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va du coup se dire, enfin déjà remercier à nouveau les auditeurs de nous suivre toujours de plus en plus nombreux.
Ceux oui, Tipeee, tout ça.
Partage sur Tipeee. Émission que vous pouvez trouver sur toutes les applications podcast. Ouais, n'oubliez pas la petite cloche. Abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, mettez des notes
Sur
ces putains d'applications podcast.
Lâchez-vous. Il y a du sujet à débat.
Voilà, venez sur le Discord, c'est toujours cool. Et puis voilà. Et puis on va se retrouver du coup dans 2 semaines. Pour la 100e émission, enfin, exceptionnelle, avec des auditeurs qui vont venir nous accompagner aussi pour cet enregistrement. D'ici là.
Je sais pas si je vais survivre 2 semaines avec eux.
Je pense que ça va sentir le fauve dans l'appart là.
Dans 2 semaines, on aura bu combien de litres?
Exactement, il y en a plus déjà.
Je pense qu'on va perdre quelques années de durée de vie, effectivement. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous. On vous dit dans 2 semaines pour la 100e. Gardez la pêche, jouez en VR, finissez vos jeux et kiffez. Et voilà.
Voilà.
Bisous. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
C'est parfait, c'est parfait.